Jean-Louis Rio, maire de la commune de Bâche-d'Aude et vice-président du Grand Narbonne, chargé en tout cas pour cette émission spécifiquement des transports. Dans cette troisième partie, un petit mot alors sur les transports de l'avenir. On a évoqué déjà la transition écologique, bon, les citadines, le rôle qui est joué par ces transports, mais il y a la technologie. Aujourd'hui, tous les bus sont encore des bus diesel essentiellement. Quid de l'avenir ?
Alors l'avenir, donc, nous travaillons depuis un peu plus d'un an aujourd'hui avec les services du Grand Narbonne et puis au travers de ce qu'on appelle un comité de pilotage et un COTEC, un comité technique, alors associant autant les élus que les fonctionnaires, de façon à définir les grands axes et les grandes lignes de notre futur DSP. Alors par exemple, sur le réseau urbain Narbonne, et ce qui intéresse véritablement vos auditeurs, nos auditeurs, c'est le développement de l'attractivité du réseau en affirmant la DSP dans les quartiers en évolution, tels que les Berges de la Robine, Pêche d'Alcy, Krabitz, Amara. Et en travaillant sur la desserte du centre-ville en utilisant le plan de circulation en double sens. C'est-à-dire qu'on a une véritable réflexion aujourd'hui sur l'ensemble de ce qu'on doit remettre à niveau. Depuis un certain nombre de temps, et notamment sur la précédente délégation de services publics, on a fonctionné en fonction des éléments qui étaient ceux-là. Aujourd'hui, on se pose vraiment en se disant il faut recalibrer un petit peu tout ça pour pouvoir être plus efficient. Sur le réseau urbain, ça c'était pour l'urbain, sur le réseau interurbain, comme je vous l'ai déjà dit, on va rationaliser l'offre régulière en se concentrant sur les services utiles et surtout en renforçant l'offre de transport à la demande, qui nous paraît vraiment très importante et qui est une grosse demande. Je vais vous donner un exemple, par exemple, sur notre commune de Bâche. Je vais prendre la mienne parce que je la connais effectivement bien. Imaginons que vous deviez prendre le train à 8h14 à la gare de Narbonne. Avec un service de transport à la demande efficient, vous savez que si vous pouvez le commander une heure avant, par exemple, c'est-à-dire que vous dites finalement, plutôt que laisser ma voiture là-bas, avoir un certain temps de transport, etc., aux alentours de 6h30, je vais voir si je peux avoir un transport qui me prenne de façon à pouvoir me déposer pour 7h14
Voilà, c'est une sorte de taxi qui va venir le chercher.
Exactement. Donc alors sur des lignes régulières quand même, on ne vient pas vous chercher à domicile, on vient vous chercher en arrêt et on vous emmène. Donc, un des deux horaires est garanti, c'est-à-dire que quand c'est sur le train, évidemment, on souhaite être à l'heure pour prendre son train. Mais on pourrait avoir une autre demande, par exemple, on doit aller au hall de Narbonne, et là, par contre, ce qui est important, c'est l'heure de départ et pas forcément celle d'arrivée. Donc voilà, les transports à la demande que nous avons étudiés sont ceux-là qui fonctionnent très bien à Perpignan, notamment sur l'agglomération de Perpignan, et qui donnent de très bons résultats. Donc via une application smartphone que nous n'avons pas, très intuitive, avec une réservation, comme je vous le disais, moins d'une heure avant, et qui va donc beaucoup plus loin, puisqu'on peut aller jusqu'à, on parlait de train, mais des fois vos trains arrivent à 22h, donc on irait jusqu'à un service qui est relativement étendu.
Oui, d'accord.
Chose que ne vous propose pas aujourd'hui les lignes régulières que nous avons. Aujourd'hui, la ligne régulière ne peut pas vous permettre ça, parce qu'elle, elle va passer à une heure fixe, mais qui ne vous permet pas d'avoir votre train à ce moment-là. Donc voilà ce qu'on veut vraiment développer.
Oui, donc le bus de l'avenir, ce n'est pas seulement des bus électriques, c'est aussi des services améliorés.
Exactement. Alors, vous me tendez la perche sur les bus électriques et évidemment nous avons étudié les différentes solutions de mobilité qui s'offrent à nous aujourd'hui. Donc premièrement, il va pratiquement de soi que sur le réseau qui va être le réseau urbain, hein, véritablement Narbonne, les citadines, nous souhaitons les passer en électrique le plus rapidement possible et dès le début du contrat.
Donc, ce sont les plus actives, finalement.
Ce sont les plus actives. Ce que nous avons testé, ça fait déjà plusieurs mois que nous testons un certain nombre de véhicules et on se rend compte que les véhicules électriques ont aujourd'hui une autonomie suffisante pour pouvoir assurer un service urbain sur toute une journée sans avoir à être rechargé. Et ça, c'était vraiment très important. Il fallait qu'on ait quand même ces éléments avec évidemment un fonctionnement de chauffage et un fonctionnement de climatisation sur les périodes, sur les saisons sur lesquelles ça va être exploité. Parce que c'est très important, ça consomme effectivement de l'énergie, que ce soit le chauffage ou la climatisation.
Oui, forcément. Oui.
Tous les tests que nous avons faits nous démontrent qu'on peut y aller. Donc nous allons aller sur cette dès le début de la nouvelle DSP, vers le remplacement des bus citadines.
Des citadines, voilà. Donc vers les années 2024-2025, ça va apparaître.
Ça va apparaître. Et puis ensuite, donc, sur toute la durée du contrat, qui est de 8 ans, c'est effectivement donc, sur l'urbain, petit à petit, de venir au remplacement de tous les véhicules. Alors, est-ce qu'on pourra le faire sur une période ou sur deux ? On va être prudent en disant que ce sera peut-être sur deux échéances.
En tout cas, ça fait partie des exigences dans la DSP. Quoi.
Exactement. Donc, c'est de basculer petit à petit sur l'urbain, vers ces énergies qui seront les essais que nous avons faits sur de l'électrique. Sur l'interurbain, la réflexion se pose également. Elle se pose dans d'autres termes parce que
le kilométrage est beaucoup plus long.
Bien sûr. Et donc là, la partie électrique ne nous permet pas forcément d'y répondre tel qu'on le voudrait, ou alors il faudra avoir des stations de recharge à certains moments avec des temps de recharge, et ça rend le service beaucoup plus compliqué. Deux solutions s'ouvre à nous aujourd'hui. Une qui est déjà existante, c'est le bio-GNV, le biogaz naturel. Donc en fait, si vous voulez, c'est une solution qui paraît, en tout cas, qui est déjà éprouvée, mais qui a énormément de vertus. C'est-à-dire que vous avez des déchets végétaux, vous avez des déchets de l'agriculture, etc. Vous en produisez un gaz, et ce gaz, vous l'utilisez pour faire fonctionner vos véhicules. En termes de circuits courts, de recyclage, etc., je pense que là, et sur la décarbonation donc globale, c'est quelque chose qui est vraiment très efficient.
Deuxième piste. Sur le papier, théoriquement, c'est bien, mais est-ce que ça peut marcher à grande échelle ?
Oui, ça marche déjà dans un certain nombre de communes. Et puis, il faut dire aussi que nous avons la chance à Narbonne d'avoir deux éléments. Alors, je vais parler un tout petit peu de l'hydrogène. C'est que premièrement, avec le port de Port-la-Nouvelle qui va avoir la plus grande installation pour pouvoir avoir de l'hydrogène, on réfléchit également,
bien entendu,
à une solution qui passerait par l'hydrogène.
Voilà, ça c'est de l'avenir un petit peu plus lointain peut-être.
Un peu.
Mais c'est dans l'air du temps.
Hein. C'est dans l'air du temps. On n'a pas la possibilité aujourd'hui de franchir le pas tout de suite, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps de retour pour pouvoir. L'usine à Port-la-Nouvelle va ouvrir à la fin de l'année 2024, donc vous voyez, la temporalité ne permet pas vraiment de basculer tout de suite. Mais c'est dans notre contrat, et évidemment, on basculera au fur et à mesure du contrat, par avenant, avec les études, avec l'entreprise évidemment qui sera retenue, de façon à basculer y compris sur l'interurbain.
Oui, donc il y aura une évolution à l'intérieur du laps de temps de la DSP.
Voilà.
Une dernière question, Jean-Louis Riault. Donc je lui dis, vous êtes maire de Bages d'Aude, vous êtes premier vice-président chargé donc de pas mal de choses, dont les transports. Qu'est-ce que vous êtes d'abord ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans l'aménagement de votre temps ?
Alors bon, évidemment, d'abord, si on devait prioriser, je suis maire de Bages, évidemment.
Oui, élu par le peuple.
Élu par le peuple à Bages. Donc voilà, c'est ma première des priorités, elle est là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir les choses de cette façon-là. Lorsque je travaille pour le Grand Narbonne, je travaille aussi pour la ville. C'est-à-dire que quand on parle des transports, les Bageotes en sont les premiers bénéficiaires. Lorsque l'agglo, qui a la compétence, par exemple, du ramassage des ordures ménagères, évidemment, les habitants de ma commune en bénéficient. Et nous en discutons très souvent avec mes collègues vice-présidents, avec le président lui-même, bien sûr, et puis les conseillers communautaires, aujourd'hui, les choses sont totalement imbriquées. C'est-à-dire que lorsque vous intervenez au Grand Narbonne sur un sujet, votre commune, elle est directement intéressée par cette intervention. Lorsque, vous le disiez, je m'occupe du logement social, lorsqu'on s'occupe du logement social, les Bageotes en sont évidemment les premiers intéressés, comme tous les autres personnes du territoire. Donc, c'est difficile. Alors, je peux pas vous dire c'est 50-50, enfin, etc., mais c'est quelque chose qui fonctionne véritablement de pair. La fonction d'élu, aujourd'hui, elle a changé par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut véritablement être aux commandes de sa commune, mais avec tout ce qui nous entoure. et les structures qui nous entourent. Et je dirais que c'est le Grand Narbonne, mais c'est aussi d'autres structures, telles que le SMDA, le syndicat mixte du Delta de l'Aude, hein, pour l'eau, pour l'assainissement, enfin pour l'ensemble des problèmes d'inondabilité, etc. Le parc naturel, bien évidemment, de la Narbonnaise, et bien d'autres structures qui sont les CIVOM. Enfin, il y a tout un tas de structures qui fonctionnent aujourd'hui et sur lesquelles vous êtes obligé d'être partie prenante pour
d'avoir un regard au-delà.
Voilà, pour le bien-être de vos concitoyens. Donc nos concitoyens d'abord, évidemment, de Bages, mais c'est toujours dans le
cadre de ce travail. Mais pris dans un contexte qui est indissociable du reste.
Indissociable,
voilà.
Total.
Alors, toute dernière question très rapide, y a-t-il encore des pêcheurs à Bages ?
Oui, bien sûr. Nous avons encore aujourd'hui...
Et des pêcheurs d'anguilles.
Bien sûr.
Parce qu'il y a un problème sur l'anguille, paraît-il.
Alors bon, oui, bien sûr, tradition. Alors vous savez que Bages a compté jusqu'à 26 pêcheurs en
à
activité.
À l'époque, oui.
Ouais,
Et combien aujourd'hui? Quelques-uns.
6.
6 quand même,
6.
Encore.
On est vraiment pas mécontents, si vous voulez, de dire que nous avons 6 pêcheurs. Donc la municipalité met à leur disposition des resserres de pêche et puis un local commun pour pouvoir le faire. Quid des anguilles? Il y en a toujours. Il y en a toujours, mais les pêcheurs sont un peu jaloux, donc ils communiquent peu sur le sujet.
Ça reste un petit peu un secret. Quoi.
C'est un peu leur secret de fabrique. Je considère qu'il faut effectivement respecter cela. Donc voilà. Mais les anguilles à Bages, c'est vraiment important.
Voilà. Bon, on va conclure là-dessus et rassurer un peu les amateurs. Il y a encore de l'anguille dans l'étang de Bages et il y a encore des pêcheurs pour prendre les anguilles. Merci Jean-Louis Riault, maire de Bages d'Aude, de tous ces témoignages. Le prochain invité de Radio Barque sera François Mourad, le Carcassonnais, qui est à la fois conseiller départemental sur le canton Carcassonne-Centre, et qui est également responsable, alors départemental, du parti Horizon. Donc on parlera de ces horizons-là dans notre prochain Radio Barque. Merci encore Jean-Louis Riault.
Merci à vous
et aux auditeurs.
Jean-Claude Jules et Grand Sud FM.
À la semaine prochaine.
Merci.